Bonjour Olivier Charderet.
Bonjour.
On va se demander ce matin dans quelle mesure les robots représentent une menace pour nos emplois. Cette semaine, on a pu découvrir une étude française assez alarmiste. Selon cette étude, la multiplication des systèmes robotisés pourrait générer un chômage de masse dans les 10 années à venir.
Oui, agriculture, bâtiment, industrie, hôtellerie, mais aussi administration, armée, police, services et médias, ils seront partout. Près d'un travailleur sur 3 sera remplacé par un robot. 3 millions d'emplois disparaîtront. Le taux de chômage grimpera jusqu'à 18%. Voilà la France de 2025, vue par le cabinet spécialisé Roland Berger. Seuls échapperont à cette robotisation, dans un premier temps du moins, culture, santé, éducation. Mais tous les niveaux seront touchés, jusqu'aux classes moyennes supérieures. Romain Lucaso est l'un des auteurs de l'étude.
On attendra des gens plus de créativité, on attendra des gens plus de flexibilité mentale. Un grand nombre d'activités qui sont des activités de production, des activités répétitives, des choses comme ça, vont disparaître.
Alors les robots destructeurs d'emplois, pas seulement. Le groupe aéronautique français Poetez a acquis le robot Caroline et il en est très content.
La robotique nous permet d'être plus rapide, plus compétitif et nous permet de réduire nos temps d'assemblage et nos cycles de production.
Les robots pour Poetez Aéronautique, ce sont des délais de fabrication réduits, des carnets de commandes remplis plus vite et même une vingtaine d'emplois créés. Et qui dit robotisation, plus généralement, dit aussi gain de productivité, hausse des investissements, augmentation du pouvoir d'achat également, mais pour ceux qui auront encore un emploi.
Alors les robots vont-ils nous mettre au chômage? On en débat dès maintenant avec nos invités. Et puis nous comptons comme chaque matin sur vos réactions. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur Twitter avec le mot dièse ENLD. Mieux encore, appelez-nous au 0820 23 33 33 pour nous rejoindre à l'antenne ou nous transmettre vos messages. Il est 8h08 sur la première, vous écoutez En Ligne Directe.
En Ligne Directe, Renaud Malik, Olivier Chorderet.
Et tout de suite, j'accueille deux invités, Alain Codouret et Paul Jorion. Bonjour.
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 Alain Codouret, vous êtes le fondateur et le CEO d'Aziril, une start-up installée dans le canton de Fribourg et active dans le domaine des mini-robots. Paul Jorion, vous êtes anthropologue, économiste. Vous publiez cette année « Penser l'économie autrement », c'est aux éditions Fayard. Vous avez de multiples centres d'intérêt, Paul Jorion. Et l'intelligence artificielle est l'un d'eux. Je rappelle d'ailleurs que vous avez jadis participé aux travaux du laboratoire d'intelligence artificielle des British Telecom. Alors on va rester peut-être, Paul Jorion, d'abord sur le constat de cette étude française dont vous avez pris connaissance. Un taux de chômage qui passerait de 10 à 18% en France à cause de la robotisation, ça vous semble plausible?
Oui, mais à mon avis, le chiffre est encore un chiffre conservateur. Comme on dit, j'ai l'impression que dans l'étude d'Oxford dont s'est inspiré Roland Berger et dans leur étude elle-même, il y a un facteur important dont ils ne tiennent pas compte. Alors, il y a deux facteurs importants dont ils ne tiennent pas compte. Le premier, c'est que la robotisation va encore faire des progrès sur cette période de 20 ans qu'ils envisagent. Et la deuxième, c'est que plus une activité humaine coûte cher, c'est-à-dire mieux les gens sont payés, plus il y a une incitation, en fait, à remplacer ça par du logiciel. Parce que quand on dit robot, il ne faut pas imaginer qu'il y a un personnage plus ou moins anthropomorphe qui va nous remplacer. Beaucoup de ces tâches qui sont remplacées, c'est simplement par des logiciels comme le traitement de texte nous avait remplacé dans les tâches classiques des secrétaires, des sténodactylos.
Donc cette étude qui annonce un chômage de masse lié à la robotisation, elle minimise encore le problème?
Oui, à mon avis, oui, parce qu'il y a donc ces deux facteurs dont ils ne tiennent pas compte.
Aucun métier, aucun secteur sera à l'abri. Pour vous, tous les domaines vont souffrir.
Non, il y a le domaine artistique, par exemple, va quand même être protégé. On ne va pas remplacer les acteurs de théâtre par des robots. Ça n'aura aucun sens.
Alain Codouret, quand vous entendez ce que dit Paul Jorion, ça vous semble plausible? La robotisation peut vraiment menacer à ce point nos emplois?
Bon, moi, j'aimerais d'abord casser peut-être une fausse croyance, parce que souvent, la population, les gens pensent que voient le robot comme un système qui est à l'image de l'homme, un système humanoïde. Dans l'industrie, les robots sont complètement différents. C'est des bras plutôt bêtes qui travaillent, qui font des tâches répétitives. Maintenant, on utilise le mot robot un peu à outrance. En quelque sorte, il y a un amalgame qui se fait entre le mot robot et puis les progrès de l'informatique ou de l'intelligence artificielle. Donc moi, des fois, ça me révolte quand j'entends qu'on dit oui, les places d'emploi vont disparaître à cause de tâches qui vont être automatisées. Et puis ensuite, on lit dans la presse des choses comme vous pensez que les robots vont piquer votre boulot, vous avez raison. Donc c'est surtout un titre accrocheur qui sert à faire peur à l'homme, qui l'encourage finalement à lire l'article. Mais quand on lit l'article en profondeur, on voit que les jobs qui pourraient disparaître ne sont pas vraiment liés à ce que moi je considère comme un robot, sont plutôt liés à des éléments qui sont du style de l'intelligence artificielle, de l'informatique, donc des progrès de l'informatique en soi ou des progrès technologiques. Et maintenant, moi, j'ai pas l'impression que c'est simplement des emplois qui vont passer à la trappe, mais c'est simplement des emplois qui vont être placés à des endroits différents. L'homme va se réadapter, va pouvoir faire d'autres tâches.
Paul Jorion, des emplois qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé dans les années 60, 70 avec la révolution du tertiaire? Est-ce qu'il faut vraiment à ce point craindre un chômage de masse lié aux robots?
Oui, parce qu'il y a maintenant une explosion quant à notre capacité justement à faire justement de l'intelligence artificielle. Le rapport Roland Berger considère que pour 100 emplois disparus, il y en a 10 qui sont recréés, donc un taux de 10%. Ça paraît vraisemblable. Mais évidemment, la question qui se pose, c'est celle des 90 qui disparaissent. Hein. C'est ça la question qu'on se pose. On s'aperçoit, par exemple, il y a donc ce système d'IBM qui maintenant fait du diagnostic médical. Ce système fait des erreurs de diagnostic qui sont bien moindres que les médecins. Il faut imaginer que ce sont des tâches, même des tâches très intellectuelles, qui vont disparaître, et pas uniquement des tâches qui nous paraissent simples. Plus une tâche nous paraît compliquée, plus souvent simplement elle est algorithmique, c'est-à-dire plus en fait elle est facile à reproduire au niveau d'un logiciel. Notre intuition quant à ce qui est créatif et compliqué n'est peut-être pas bonne non plus. Elle nous donne peut-être une très mauvaise indication sur ce qui sera remplacé par la machine, est-ce qu'il ne sera pas.
Paul Jorion, Alain Codouret, restez avec nous. J'accueille tout de suite Frédéric Mamaïs, journaliste au sein de notre rubrique économique. Bonjour.
Bonjour.
On a des raisons d'avoir à ce point peur de la robotisation aujourd'hui?
Moi je dirais, bon, évidemment, l'étude de Roland Berger, on va pas la remettre en cause. Je me méfie un petit peu toujours de ces prévisions économiques futuristes à 20 ans. Je me permets peut-être juste de citer Patrick Modiano, le passé est plus intéressant que l'avenir. Pourquoi? Parce que, finalement, vous l'avez suggéré, le tertiaire a déjà détruit beaucoup d'emplois. Il y a déjà eu, par le passé, beaucoup d'évolutions. En fait, le robot n'a pas remplacer l'homme, il a simplement replacé l'homme chez nous. C'est-à-dire que souvent on automatise beaucoup de choses dans l'économie parce qu'on doit faire face à une concurrence qui vient de pays où le travail humain est moins cher. Prenez un exemple, l'horlogerie en Suisse, on ne fabriquerait pas une Swatch à moins de 100 francs ici en Suisse sans les robots, sans toute cette robotisation. Donc je dirais qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur de ce robot comme ça qui vient vous détruire, de ce Terminator qui viendrait. Les robots sont déjà là, ils ont déjà remplacé les tâches, habituelles. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ces robots vont permettre de créer des emplois meilleurs, mieux qualifiés, mieux payés? Jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. La révolution numérique, pour l'instant, elle n'a pas délivré ses promesses. Il n'y a pas eu de création d'emplois particulière, il n'y a pas eu non plus d'augmentation des salaires depuis la révolution numérique. Donc là, il y a un problème, mais c'est un problème lié de croissance et de productivité en Occident.
Paul Jorion, des robots qui ne sont pas synonymes de chômage de masse, mais qui ne sont pas non plus synonymes de création de nouveaux emplois. Vous n'êtes pas d'accord avec ce constat de Frédéric Mamaïs?
Si, mais ce qu'il faut penser, qu'est-ce que nous craignons? Ce que nous craignons, c'est pas qu'on nous remplace, qu'on nous aide dans notre travail grâce à des machines. Ce que nous avons peur, c'est que nous avons des emplois salariés. Et ces emplois salariés, quand ils sont remplacés par la mécanisation, eh bien, il n'y a aucun bénéfice pour nous. La personne qui va bénéficier du fait qu'on est remplacé, nous, comme salariés, par un robot, c'est la personne qui est le détenteur d'actions dans cette compagnie qui, elle, survit. Ce sont les salariés qui sont peut-être très bien payés. Ce sont les gens qui ont des stock options sur cette compagnie qui va faire des gains de productivité essentiels en remplaçant des êtres humains par des robots. La crainte qu'on doit avoir, c'est le fait que la richesse créée par ces machines que nous avons voulu créer ne soit pas partagée, qu'elle aille uniquement à une petite poignée de gens qui restent, les détenteurs de ces robots.
Alors, on aura justement l'occasion de reparler de la manière de redistribuer la richesse. Mais Paul Jorion, juste pour rester sur l'actualité de cette semaine, on a pu apprendre que Nestlé allait acheter 1000 robots pour vendre ses capsules dans les boutiques Nespresso au Japon. Pour vous, c'est quoi? C'est un avant-goût de ce qui nous attend ou bien c'est un simple coup marketing?
Non, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça va très très vite. Il y a eu, il faut le savoir, parce que vous avez fait allusion au fait que moi, je travaillais dans ce domaine, il y a eu des goulots d'étranglement, il y a eu des choses, il y a eu des moments où on n'arrivait pas à faire que la machine voit correctement. Il y a eu des problèmes sur l'utilisation du langage humain par la machine. Mais tout ça, ça a sauté au cours des années récentes, et maintenant, le développement est très très rapide. Il faut penser qu'une compagnie comme Foxconn, une compagnie de Taïwan, envisage de faire une usine avec 1 million de robots. Et 1 million de robots, ça remplace plus qu'un million de personnes, il faut bien le savoir.
Frédéric Mamaïs.
Oui, sur Nestlé, je crois que là, il y a déjà un coût marketing évident. La preuve, c'est qu'on en parle tous. Après, je pense que pour revenir sur ce que dit Paul Jorion, ce qui est intéressant, vous peut-être distinguer les emplois qu'on a remplacés, c'est-à-dire, je sais pas, la voiture sans chauffeur. Bon, bah voilà, c'est un chauffeur en moins. Et puis, la technologie ou disons les commerces que les robots créent et qu'on n'aurait pas fait nous-mêmes. C'est le cas, par exemple, dans la finance du trading à haute fréquence, hein, ces ordinateurs super puissants qui font des millions d'échanges. Bon, bah, on pourrait pas le faire nous-mêmes. Donc, le danger, il est peut-être là. C'est qu'on crée des business pas autosuffisants, mais disons où, en fait, on remplace pas un être humain. Simplement, c'est quelque chose qu'un être humain ne ferait pas. Donc, l'être humain devient doublement inutile.
C'est vrai, ça, Alain Codourel, l'être humain devient doublement inutile.
Pour moi, pas du tout. Donc, le robot doit être vu comme un outil qui va aider l'homme. L'homme va pouvoir faire des tâches peut-être plus agréables. Parce que si on voit l'évolution qu'on a eue depuis, je dirais, la première révolution industrielle, finalement, la qualité de l'emploi est quand même nettement meilleure. Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que des études montrent aussi que la robotique industrielle a créé 8 à 10 millions d'emplois jusqu'en 2008, va continuer à en créer. Maintenant, les motivations pour la robotique, c'est justement de pouvoir garder les places de travail chez nous, ici en Europe, plutôt que de les délocaliser dans des pays où la main-d'œuvre est meilleur marché. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est vous créez des emplois, mais vous ne les créez pas chez vous, et vous créez du chômage chez vous. Paradoxalement, les pays en Europe qui ont le moins de chômage sont ceux qui ont le plus de robots installés.
Ah, ça fait quand même réfléchir, ça, Paul Jorion.
Oui, mais bien entendu, mais ça c'est parce que une entreprise qui remplace, il faut bien le dire, une entreprise qui remplace un être humain par une machine ou par un logiciel, eh bien elle va gagner en compétitivité, elle va être meilleure. Mais ce qu'il faut penser, c'est que les nouvelles technologies, celles qui apparaissent, je ne sais pas, du génie biogénétique ou des choses comme ça, ce sont des entreprises qu'on va créer, qui vont avoir un chiffre d'affaires en milliards de francs, mais qui emploieront 50, 55 employés, c'est-à-dire un très 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 petit nombre de personnes. Le problème, ça va pas être est-ce que ça nous aide ou non d'être remplacés comme ça ou d'être aidés par la machine. Évidemment que ça nous aide. Le problème, c'est que c'est un problème essentiellement de redistribution de la richesse qui est créée comme ça. Parce que vous savez, on est dans un environnement où quelqu'un qui perd un emploi, on ne lui dit pas c'est formidable, il y a une machine maintenant qui vous remplace. On vous dit cherchez un autre emploi. Dans un marché de l'emploi qui se restreint de plus en plus. Dans l'étude des chercheurs d'Oxford, c'est à une échéance de 25 années, c'est 47% des types d'emplois que nous avons qui vont disparaître. Les chiffres de Roland Berger sont un tout petit peu plus faibles parce que la France est un peu organisée autrement, mais ce sont des chiffres considérables. Oui, c'est le passage de taux de chômage de 10 à 18%, et quelle que soit la manière dont on triture les chiffres, 18% dans la population, c'est un chiffre considérable. Nous n'avons pas une société organisée pour avoir 18%. Simplement de gens qui sont des chômeurs qui ne bénéficient pas du fait d'avoir été remplacés par une machine.
Il est 8h20, on prend très brièvement des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Lausanne, un accident provoque un bouchon entre Lausanne-Venne et Lausanne-Blecherette en direction de Genève. Vous écoutez, la première en ligne directe revient sur une étude rendue publique en début de la semaine. La robotisation des tâches, nous apprend cette étude, pourrait représenter un vrai tsunami pour l'emploi en Europe. Alors faut-il avoir peur des robots? C'est la question que nous vous posons ce matin et nous comptons sur vos réactions. Notre ligne téléphonique est ouverte jusqu'à 8h30. Appelez-nous au 0800 23 33 33 si vous souhaitez nous rejoindre à l'antenne. Et puis Olivier Chorderey garde comme chaque matin un œil sur notre page Facebook et sur Twitter où vos messages sont aussi les bienvenus. Olivier, déjà des réactions?
Oui, avec quelques craintes, on a parlé un petit peu de cette redistribution, cette reformation du monde au travail. On craint que finalement il y ait peut-être 2 voire 3 catégories d'emplois à l'avenir, des emplois très très spécialisés à valeur ajoutée, des emplois de maintenance créés par l'émergence ou le développement de ces robots, et puis des emplois qui restent peu qualifiés avec cette crainte que vont devenir ces emplois peu qualifiés. Mais disons globalement, la couleur générale des appels ce matin, des réactions, c'est plutôt on se calme, il ne faut pas avoir forcément peur des robots. Ça fait plusieurs décennies qu'on nous annonce un avenir où les robots robots travailleront à notre place. Et puis, on ne pourra pas tout confier à des robots. Les infirmières, les médecins ou même les serveurs dans les restaurants ne peuvent pas fournir des tâches assumées par des robots. On nous dit aussi que finalement, on a beaucoup crié au loup quand l'informatique s'est développée dans le tertiaire. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Des administrations toujours plus grandes. Donc, finalement, on supprime, on améliore les outils, mais finalement, les personnes, on en a toujours besoin.
Frédéric Mamaïs, la robotisation des tâches, est-ce qu'elle va changer notre rapport au travail dans les prochaines décennies ? Est-ce qu'elle doit nous inviter à repenser un peu le travail dans nos sociétés ?
Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est très important de rappeler ce que dit Paul Jorion, c'est que ça crée encore plus d'inégalités, c'est-à-dire que les emplois qualifiés, surqualifiés seront créés, et puis les emplois faiblement qualifiés, eux, vont disparaître. Et je crois encore une fois, ce qui est important de rappeler, c'est que on parlait de l'informatique tout à l'heure. L'informatique n'a pas apporté les promesses qu'elle devait amener. C'est-à-dire, elle n'a pas apporté une meilleure productivité dans la société. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. Elle n'a pas apporté une augmentation des salaires de manière générale. On se disait, grâce à l'informatique, on va produire plus, plus rapidement. Tout le monde va être plus riche. En fait, c'est pas vrai. On est passé à côté de ça. Depuis 30, 40 ans, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne donne pas les résultats qu'on promettait. C'est pour ça que je dis qu'en fait, on s'inquiète des robots pour l'avenir, mais les robots sont déjà là. Et je pense pas qu'il y a des raisons de penser qu'ils vont encore augmenter nos salaires ou encore augmenter la productivité. C'est pas vraiment gagné.
Paul Jorion, on va vers une société plus oisive, une société où le travail sera plus vraiment la norme, c'est un peu ce que vous dites. Et donc, en gros, pour vous, il faut, en fait, la vraie question, c'est celle de la redistribution des richesses, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que nous, on imaginait déjà, effectivement, dans les années 50, on présentait aux enfants que j'étais à l'époque, on leur parlait de l'an 2000 et on serait tous aidés par des robots, etc. Mais l'image qu'on représentait, c'est que ça deviendrait une société des loisirs, c'est-à-dire qu'en fait, que la richesse qui viendrait de ces robots serait redistribuée de manière assez égalitaire dans la population. Alors, Frédéric là, vient de parler de la productivité, mais si les chiffres de la productivité ont l'air d'être en baisse ou de stagner, c'est simplement ça nous indique la tendance. Si on avait laissé les êtres humains travailler en même temps que les robots, ou si les robots nous aidaient essentiellement, on aurait vu les chiffres de productivité augmenter d'une manière tout à fait considérable. Mais si les chiffres ont l'air de stagner, c'est parce qu'on ne compte pas la productivité des robots. On ne la compte pas, c'est-à-dire du coup elle est invisible et on ne voit pas que c'est un simple remplacement qui a l'air d'avoir lieu. Il y a une firme robotique, quand vous écoutez les représentants de cette firme, elle vous dit « oui, mais c'est sûr que les robots vont surtout aider les êtres humains, etc. » Quand vous regardez les vidéos de cette firme, vous ne voyez jamais un robot qui est en interaction avec un être humain. C'est toujours un robot qui a remplacé une personne. Et cette personne se retrouve, comme je le disais, sur un marché de l'emploi avec des emplois en nombre qui diminue, comme 90%, comme le dit Roland Berger. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va avoir un pouvoir d'achat dans une population où les gens cessent d'être payés ou reçoivent simplement des allocations de chômage, ou si on améliore un peu le système de ce côté-là, une allocation universelle qui serait quand même d'un montant minimum. Comment est-ce qu'on va produire une économie sans gens qui peuvent acheter les produits qui sont en vente ?
Alors voilà, Frédéric Mamaïs, Paul Jorion vient de mentionner cette idée de créer un revenu de base universel. On va se prononcer là-dessus en Suisse bientôt. Pour vous, c'est justement la robotisation doit relancer le débat et légitime peut-être l'idée d'un revenu de base universel.
Oui, je pense que c'est intéressant de débattre de nouveautés. Le problème, et Paul Jorion le dit, c'est qu'il y a un problème plus général, et la robotisation l'accentue, il y a un problème plus général qui est que notre économie capitaliste, attention, je ne tiens pas un discours marxiste, c'est une évidence, notre économie capitaliste rémunère le capital, et tout est fait pour rémunérer le capital, l'actionnariat, et pas le travail. Le travail, en fait, c'est toujours cette charge sociale, on appelle ça une charge sociale. Donc, finalement, pour rejoindre ce que dit Paul Jorion, l'être humain va devenir de plus en plus inutile, le travail va devenir inutile, le problème, c'est que nous, on est toujours là. Donc, la taxe, oui, mais est-ce que ça règle cette question de traiter l'être humain comme une charge plutôt que comme un capital, pas sûr.
On reçoit beaucoup d'appels, Olivier, au téléphone notamment.
Oui, beaucoup de réactions avec des questions parfois un peu impertinentes. Alors on parle de taxes. Sarah nous dit effectivement pourquoi ne pas taxer lourdement. Elle insiste sur ce mot. L'utilisation des robots pour financer le chômage des humains. Cette autre question, les robots auront-ils le droit de faire grève ? Mais qui montre bien au-delà de l'anecdote, effectivement, des interrogations sur le monde du travail de demain. Et puis certaines professions, effectivement, pourraient être plus touchées que d'autres par l'émergence ou le développement des robots. C'est ainsi le cas de votre profession, Yves. Bonjour.
Bonjour, Yves.
Oui, bien bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, les garçons. Tout à fait. Je suis, vous le savez, certains d'entre vous, je suis traductrice, interprète de conférences et voix. Mais sur ces trois professions de langue, enseignante aussi, j'oublie parfois, sur ces trois métiers de la langue, des langues, il y en a deux qui sont pleinement touchés. Et je ne vais pas utiliser le terme de robotique, mais en tout cas de tout ce qui est logiciel développé par des êtres humains et par des machines. À savoir en traduction tout d'abord, Google Translate, ne faisons pas de pub, mais malheureusement cette machine existe depuis un bon bout de temps et heureusement elle n'est pas encore suffisamment développée pour nous remplacer intégralement, mais elle a, je ne vais pas dire impacté, c'est un terme anglais qu'on utilise toujours, elle a eu un impact massif sur notre métier dans la mesure où nos clients nous disent « J'ai fait traduire par Google Translate, vous pourriez encore y jeter un coup d'œil et polir le texte ». Polir le texte signifie repasser, relire, enlever les fautes de grammaire, les fautes de syntaxe, à un tarif complètement différent que celui de la traduction en bonne et due forme. Au mois de juin de cette année, la conférence mondiale, le congrès mondial des traducteurs professionnels s'est déroulé à Berlin, il n'a lieu que tous les 4 ans, et sur place, un grand nombre d'agences de traduction, n'importe qui peut s'improviser propriétaire d'une agence de traducteurs, des agences de traduction sur place nous ont dit, vous les traducteurs, on va plus avoir besoin de vous, nous utiliserons des machines, et oui, vous nous servirez de correcteur. Nous étions au moins 80 dans la salle à nous lever et à quitter la salle plénière quand ces propos ont été dits.
Ben merci Yves pour ce témoignage. Alain Caudouret, c'est peut-être justement intéressant d'entendre votre réaction à ce témoignage d'auditrice. Voilà, est-ce que c'est un présage de ce qui attend quand même une partie des professions dans les décennies à venir?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a des professions qui vont changer. Maintenant, dans le cas présent, finalement, il ne s'agit pas d'un robot, il s'agit d'un système informatique qui permet de faire des traductions automatiques. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame, encore une fois, du robot et des progrès de l'informatique. Mais c'est clair qu'il y a des professions qui vont devoir changer. Et puis, moi, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Je suis plus inquiet pour notre monde, pour d'autres choses. Par exemple, la non-maîtrise de la croissance démographique qui finalement va être utilisatrice de nos ressources naturelles. C'est pour moi plus important que l'avenue de nouvelles technologies ou des robots.
Paul Jorion, revenir peut-être sur ce que disait un de nos auditeurs, à savoir pourquoi ne pas taxer les robots pour financer le chômage des humains, ça vous inspire quoi cette idée?
Ah ben, c'est une idée suisse, ça c'est formidable, hein. Ça, c'est Léopold Simon de Sismondi au début du 19e siècle qui a proposé ça dans le cadre de la réflexion qui avait lieu sur le ludisme, c'est-à-dire les ouvriers qui allaient casser les machines parce qu'ils savaient qu'ils ne bénéficieraient pas du tout du fait d'être remplacés par une machine. Ben, il a dit, il faut que celui qui soit remplacé par une machine bénéficie pour le reste de sa vie de cette formidable chose qui lui est arrivée, c'est-à-dire qu'on a pu remplacer son travail par celui d'une machine. Il n'y a pas de raison qu'il soit lui spoilé du fait que nous voulons dans notre culture remplacer les tâches difficiles, trop compliquées, avilissantes, dangereuses par un robot. C'est un bénéfice pour la société dans son ensemble. Malheureusement, la manière dont nous nous sommes organisés, c'est uniquement ceux qui remplacent la personne par un robot qui en bénéficie et pas du tout celui qui est remplacé. Il faut un changement de paradigme, comme on dit. Il faut qu'on commence à penser dans ces termes-là. C'est un bénéfice pour tout le monde, le fait que nous avons une mécanisation. Il ne faut pas que cette concentration de la richesse qu'on constate, c'est-à-dire le fait que maintenant 67 personnes au monde possèdent autant que la moitié de la planète, c'est-à-dire la moitié de 3,5 milliards de personnes, il ne faut pas que nous allions encore davantage dans ce sens-là. C'est une bénédiction, ce remplacement par la machine, il faut que tout le monde en bénéficie.
Frédéric Mamaïs, là, il y a une solution possible avec cette taxe sur les robots?
Je vois deux problèmes. Le premier, c'est qu'une taxe augmente les charges de l'entreprise. Or, le robot, il est justement là pour améliorer la rentabilité. Donc, ça va déjà poser un premier problème. Le deuxième problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que le robot remplace à chaque fois un être humain? Pas sûr. Ça, qui va le décider? Ça va être assez compliqué.
Olivier Chorderet, on a entendu cette semaine des propos assez étonnants du côté de la Silicon Valley, du côté d'un des grands noms de la technologie.
Oui, c'est un gourou de la Silicon Valley. Elon Musk, c'est PayPal, la voiture électrique Tesla, les taxis de l'espace, pour ne parler que de ces activités-là. Alors, il s'investit lui-même dans l'intelligence artificielle, mais dit-il, c'est pour prendre le pouls des nouveaux développements. Et puis, très récemment, il s'exprimait devant des étudiants du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, où il disait voilà, que l'intelligence artificielle potentiellement est dangereuse.
Nous devons faire très attention avec l'intelligence artificielle. Je dirais que c'est probablement la plus grande menace pour l'humanité. J'ai de plus en plus tendance à penser qu'il devrait y avoir une plus grande surveillance au niveau national ou international, juste pour être bien certain qu'on ne commet pas de grosses bêtises. Jouer avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme invoquer le démon.
Alain Codouret, jouer avec l'intelligence artificielle, c'est un peu invoquer le démon. Ça vous inspire quoi, ces propos ?
Finalement, c'est les craintes qu'on a sur le futur. Quand l'homme a introduit la machine à vapeur, les craintes étaient aussi là. On pensait que ça allait détruire le monde. Maintenant, on voit où on en est.
Paul Jorion, ça vous étonne, ces propos de ce grand patron de la Silicon Valley sur l'intelligence artificielle ?
Non, pas du tout, parce qu'on sait que ce qui fait encore que le robot est une machine et pas un être humain, c'est le fait qu'on lui donne pas une dynamique émotionnelle. Et ça, quelque chose que je discutais il y a 25 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement avec une machine. Non, les craintes de ce monsieur, elles sont liées, par exemple, à ce qu'on entend, c'est que en Norvège, on est en train de créer des robots qui prendront la décision personnellement, je dirais, de tuer. Alors, ils appellent ça gentiment une munition intelligente, mais une munition intelligente, il faut le savoir, ça c'est véritablement un robot qui prend sur lui-même, en tant que machine, la décision de tuer. Et ça pose un problème beaucoup plus général, c'est que nous n'y pensons pas, mais au niveau des décisions que nous prenons, nous confions déjà à l'ordinateur énormément de décisions. On parle de Nestlé qui utilise des robots, mais il y a cette compagnie qui a mis dans son comité de direction, qui a mis un ordinateur dans son comité de direction. Et il y a des gens qui sont en train de discuter en ce moment, M. Bensoussan en France en particulier, des droits qu'on doit accorder des robots. Et vous connaissez cette série télévisée Real Humans qui pose très très bien, de manière très intelligente, les problèmes de l'apparition autour de nous de machines qui peuvent être anthropomorphes et qui ne doivent pas nécessairement être anthropomorphes. On le sait bien, le logiciel n'a pas la tête d'une machine, mais il a remplacé des millions d'emplois à la surface de la Terre.
On va donner le mot de la fin aux auditeurs, Olivier Chardoret.
Oui, à Sébastien qui nous dit finalement que nous ne sommes pas encore prêts à vivre dans ce monde de robots. La législation ne réserve pas de statut à l'humain modifié par la robotique. L'humain ne sait pas se définir et définir son rôle dans la société autrement que par le travail, un paradigme à modifier.
Voilà, nous ne sommes pas encore prêts. C'est peut-être là-dessus qu'on va rester. C'est la fin de ce débat. Merci à vous, Paul Jorion, Alain Codouret, Frédéric Mamaïs, d'y avoir participé. Paul Jorion, je rappelle brièvement le titre du livre que vous venez de publier, Penser l'économie autrement, c'est aux éditions Fayard. Excellente journée à vous tous. Merci à vous, Olivier Chorderet, ainsi qu'à Philippe Nanzer pour sa contribution à la préparation des débats dans Ligne Directe. Et avant de passer aux informations de Didier Dupoyer, je rappelle qu'à la production du Journal du Matin cette semaine, il y avait Jean Depreux et Nicolas Esquiaou. À la préparation, Niki Nadas. À la technique, Caroline Dumoulin, Mathieu Balmer, Frédéric Saint et Anne Marchand. Les assistantes de production étaient Mireille Malotras et Josiane Perret. Les rédacteurs en chef adjoints, Sylvie Lamblet, Joël Marchetti et Pierre Anchoffa. Le rédacteur en chef, Patrick Nussbaum.